Action dirigée vers soi-même. Vous avez la parole. Je vous remercie. J'ai un titre assez long. Conscience situationnelle adhère au principe de la distinction en tant que condition de l'autonomie légale, mais cela expose ce qui est en fait un argument assez simple et qui, je crois, va permettre de nous éclairer dans ce débat et qui est, je crois, bien connu de nos collègues. Permettez-moi de commencer par exprimer ma reconnaissance pour l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole aujourd'hui. En guise d'introduction rapidement, je dirais que je suis professeur d'anthropologie, mettant l'accent sur les relations contemporaines entre les êtres humains et la technologie, et chose particulièrement pertinente pour le débat d'aujourd'hui, l'évolution dans l'intelligence artificielle et l'interaction humain-ordinateur. Avant de prendre mes fonctions à l'Université de Lancaster, j'ai été scientifique au Centre de recherche de Palo Alto de la Silicon Valley, où j'ai passé 20 ans en tant que chercheuse. En 1983, j'ai été membre fondateur de professionnels de l'informatique pour la responsabilité sociale, une organisation constituée pour aborder la dépendance croissante des ordinateurs dans les systèmes nucléaires. Je suis maintenant au Comité international pour le contrôle des armes robots et au Conseil d'administration pour la Fondation de la robotique responsable. Un but essentiel de mon travail a été la démystification dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment concernant les différences entre les capacités humaines et la machine. Mon approche consiste à suivre l'évolution de l'intelligence artificielle et de la robotique en prenant au sérieux les affirmations faites concernant les machines intelligentes. Je compare ces affirmations aux études, par rapport aux études étendues des aptitudes, en particulier sociales et au niveau de l'interaction, qui sont la fondation des activités humaines associées. À cet égard, mon analyse repose sur les épreuves empiriques plutôt que sur les principes. Ma préoccupation sur la base de cette recherche est que les affirmations rhétoriques qui sont faites pour l'intelligence des machines rendent opaque ou alors représentent de manière erronée le domaine des réalisations techniques véritables. Dans le temps dont je dispose pour offrir une définition de travail des armes autonomes létales sur la base des discussions précédentes, je vais souligner les différences les principales entre l'autonomie humaine et celle de la machine, notamment concernant la conscience situationnelle est plus importante sur le principe de la distinction qui me semble essentielle. Je conclurai avec certaines remarques sur les incidences de ces différences pour une autonomie des systèmes d'armes légales et je serai à votre disposition pour apporter d'autres précisions pendant le débat. Je commence par la définition de travail des armes autonomes létales émergentes des discussions d'aujourd'hui, c'est-à-dire les systèmes d'armes robotiques dans lesquels l'identification et la sélection de cibles humaines et le déclenchement de la force violente est effectué sous le contrôle de la machine, c'est-à-dire que ces actions sont déléguées au système de telle sorte que l'on élude toute intervention humaine responsable ou délibérée, ce qui, dans la discussion actuelle, a été caractérisé comme un contrôle humain tangible. L'accent dans notre débat, à mon avis, doit être sur les cibles humaines, c'est-à-dire l'identification d'humains ou d'objets habités par les humains, bâtiments, véhicules, en tant que cibles légales pouvant être légalement attaquées. L'autonomie renvoie à une action orientée sur soi-même, mais dans ce qui nous préoccupe ici, dans le cadre des opérations militaires, l'action suivant la règle qui englobe le combat légal. Les règles militaires requièrent toujours une interprétation par rapport à des situations spécifiques. C'est ce que nous appelons la connaissance de la situation, situational awareness. Le droit humanitaire international et d'autres lois aux règles du conflit armé supposent ou présupposent des capacités de connaissance de la situation qui ne peuvent être pleinement précisées, en particulier ces aptitudes requises pour relever les conditions supposées par la règle pour les situations réelles. Dans le cas des combattants humains, les ambiguïtés du DHI et les règles de l'engagement ne sont pas simplement des faiblesses, mais c'est ce qui fait ces cadres pertinents dans des circonstances imprévisibles. L'autonomie ou l'autodirection dans le cas de machines, par contraste, requiert la spécification sans ambiguïté des conditions dans lesquelles les actions associées doivent être décidées, ce qui signifie que les systèmes autonomes ne peuvent être responsables que dans la mesure où l'environnement et les conditions dans lesquelles ils opèrent peuvent être prévues ou conçues dans la programmation de la machine. C'est un point crucial et je développerai volontiers lors du débat. Le problème dans ce cas est que les armes autonomes qui adhéraient au DHI requièrent une traduction sans ambiguïté fiable des règles de la connaissance situationnelle, en particulier pour identifier les cibles humaines légitimes. Il faut traduire cela dans un code exécutable machine. Le principe de la distinction ou de la discrimination entre les cibles légitimes ou illégales est un élément de la conscience, de la connaissance de la situation qui me semble être particulièrement pertinent pour la question de savoir si les armes autonomes peuvent adhérer au DHI. L'adhésion au principe de distinction requiert que les systèmes aient une vision appropriée ou d'autres systèmes de traitement de la détection et les algorithmes qui sont associés, séparant les combattants des civils et permettant de différencier les blessés des combattants qui se rendent ou qui constituent une menace imminente. Contrairement aux affirmations concernant le développement rapide de l'intelligence et de l'artificiel et de la robotique, il n'y a pas d'évidence de preuves empiriques des progrès dans l'opérationnalisation des capacités de la connaissance situationnelle requises pour l'adhésion du principe de distinction. Les affirmations telles que les détecteurs thermiques ou d'autres peuvent établir la présence d'un humain, mais ne peuvent pas discriminer entre humains comme ce qui requiert les technologies telles que la reconnaissance faciale ou autres reposent sur l'existence ou bien d'une base de données préétablie, de modèles par rapport auxquels on peut établir une identification ou des profils vulnérables à la reconnaissance positive, à d'autres formes de catégorisation qui peuvent être inexactes. La distinction entre combattants et non-combattants est essentielle cependant pour le respect du droit humanitaire international et d'autres règles du conflit armé. Cela suppose des doutes concernant la faisabilité d'armes autonomes létales respectueuses du DHI. Pour conclure, la clarté théorique concernant les capacités permettant la connaissance de la situation dans le cas des combattants humains, avec un accent particulier sur le principe de la distinction, éclaire les conditions qui doivent être imposées au système d'armes autonomes létales. La question déterminante pour ces systèmes est si la capacité de discrimination, qui est une condition préalable pour tuer légalement, peut être codée sans ambiguïté de manière fiable. Je soutiens qu'elles ne le peuvent pas et que, comme conséquence, ces armes constituent une violation du DHI.